17h45, c'est l'heure de retrouver Léo Fichou et toute l'équipe d'RRB pour InfoSoir.
Manuel Valls ne repartira que demain. Il doit rencontrer avant son départ la nouvelle délégation du FLNKS. Ce lundi, le ministre des Outre-mer a conclu la première phase du comité de rédaction. Les participants ont exprimé leur satisfaction à l'issue de cette phase de travail. Le dispositif de soutien à l'emploi du gouvernement se précise. Un mois après l'adoption de la loi du pays, les élus du Congrès étaient réunis cet après-midi. Au chapitre santé, des nouveautés dès le 1er septembre au CHN. Le centre hospitalier du Nord annonce notamment la réouverture du service de chirurgie de Koné. Dans la région, l'Australie se porte candidate pour accueillir la COP31, la conférence des Nations Unies sur le climat qui aura lieu en 2026. Et puis les sports, nos représentants ont brillé en athlétisme lors des dernières compétitions nationales et internationales. Nous recevions Loan Ville et Félicé Vaya ce midi. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, bien évidemment, la visite de Manuel Valls qui prolonge encore son séjour en Nouvelle-Calédonie. À l'issue de la troisième réunion du comité de rédaction, le ministre des Outre-mer a annoncé à ses interlocuteurs qu'il différait son départ. Il reçoit demain une nouvelle délégation du FLNKS. Un rendez-vous que le ministre des Outre-mer confirme sur sa page Facebook en annonçant que le comité de rédaction a terminé, Elisabeth Noir, sa première phase de travaux.
Je me félicite de l'aboutissement des travaux du comité de rédaction qui ont notamment permis, après 3 séances et 11 heures de débat, d'associer les partenaires politiques ainsi que le CESE ou le Sénat coutumier, écrit Manuel Valls sur ses réseaux sociaux. Le ministre ajoute que les travaux ont été dominés par un grand esprit de responsabilité de la part des signataires de l'accord signé à Bougival et de la volonté de le mettre en œuvre. Place maintenant aux derniers arbitrages ministériels, puis à l'avis du Conseil d'État et enfin à l'adoption au Conseil des ministres le 17 septembre, puis le constituant se saisira du texte. L'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie franchit donc une étape décisive vers sa mise en œuvre, poursuit le ministre des Outre-mer. Il précise aussi que le comité de rédaction poursuivra ses travaux, notamment pour examiner les premières versions de la loi organique spéciale, et qu'il continuera à associer les responsables politiques, les maires, les autorités coutumières et la société civile. Par ailleurs, indique Manuel Valls, ma porte reste ouverte et je me félicite de pouvoir rencontrer demain la nouvelle délégation du FLNKS. J'ajoute que cette nouvelle délégation, dont à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore la composition.
Et le ministre des Outre-mer qui conclut ce poste en précisant que partout où il s'est rendu au cours de la semaine, il a ressenti cette même aspiration, aller de l'avant ensemble. C'est, écrit-il, cette énergie qui nourrit ma détermination pour que la Nouvelle-Calédonie retrouve enfin son chemin vers la tranquillité et l'épanouissement. Fin de citation. Les participants au comité de rédaction ont eux aussi exprimé leur satisfaction à l'issue de cette phase de travail.
La plupart d'entre eux ont participé aux 3 réunions de ce comité de rédaction qui ont permis d'affiner le projet de loi constitutionnelle, un texte indispensable pour créer l'État de la Nouvelle-Calédonie et pour fixer son statut dans la Constitution. Il permet aussi la consultation des populations calédoniennes sur l'accord de Bougival début 2026. Il crée et fixe ce qui relèvera de la loi organique spéciale et de la loi fondamentale et il définit le corps électoral applicable pour les élections provinciales de juin 2026. Ce projet de loi constitutionnelle doit être déposé au Conseil d'État en ce début de semaine en vue d'être adopté en décembre par le Congrès du Parlement réuni à Versailles. Parmi les réactions à l'issue des travaux, celle de Mila Kulotu-Kumuli de l'Éveil océanien, il se félicite de l'entretien prévu demain entre le ministre de des Outre-mer et le FLNKS.
Je crois que l'information principale qui nous a été donnée, au-delà du travail qui est terminé, c'est que le ministre nous a informé qu'il allait rencontrer une délégation du FLNKS demain. On a toujours donné notre position. Avoir un accord sans le FLNKS, c'est un peu risqué, quoi. Donc on souhaite que cette rencontre soit fructueuse et que le dialogue se renoue.
Est-ce que vous pensez justement que ce qui a été écrit dans ce projet de loi constitutionnel pourrait refaire venir le FLNKS autour de la table ?
Nous pensons que oui, parce qu'il y a des éclairages qui ont été donnés aujourd'hui dans le cadre de la PGLC. Nous, ce qu'on note, c'est qu'il y a une tentative de dialogue demain. Donc on espère que ce soit fructueux.
Un travail à la fois technique et politique, souligne pour sa part Virginie Rufnak du Rassemblement, et elle insiste sur la nécessité de lever toutes les ambiguïtés.
On a finalisé ce travail à la fois technique et politique sur cette loi constitutionnelle. Il y a eu un état d'esprit positif et au final, il y aura encore un combat important, celui de la loi organique spéciale qui a vocation ensuite à être traduite. Mais aujourd'hui, vraiment, le premier des travaux, c'était celui sur cette loi constitutionnelle qui va maintenant très rapidement être dans les différents circuits au niveau national. Le travail a consisté à faire en sorte que ce qui a été fait et conclu à Bougival soit correctement traduit dans la loi constitutionnelle, dans la constitution française. Et on a voulu que cette constitution soit très bavarde, contrairement à l'habitude de la constitution, pour précisément qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou d'interprétation différente. Nous voulions être très clairs et que le maximum de ce qui avait été écrit dans Bougival puisse être traduit dans la constitution française, ce qui est le cas dans le résultat du projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui.
Et parmi les ambiguïtés à lever, celles concernant les questions de nationalité qui suscitaient un certain nombre d'inquiétudes chez les partisans de la France. C'est l'un des points qui a été traité, souligne Sonia Baquès pour les loyalistes.
Les choses avancent dans le bon sens. On a des éléments qui étaient des éléments d'inquiétude des Calédoniens sur lesquels les choses sont clarifiées. Donc maintenant, le chemin est encore long, mais les équilibres ont été trouvés. Tout est complexe puisqu'en fait, il y a trois niveaux de normes, la loi constitutionnelle, la loi organique et la loi fondamentale. Tout n'est pas évidemment clarifié dans l'accord de Bougival, donc les choses qui sont un peu ambiguës, il faut les clarifier à ce niveau-là, puis ensuite, ça continuera au niveau de la loi constitutionnelle. Nous, on avait un élément important, c'était une inquiétude des Calédoniens de dire que, quelle que soit l'évolution, la nationalité calédonienne ne pouvait pas leur enlever la nationalité française. Donc c'est un élément sur lequel on a obtenu des garanties rédactionnelles, de dire que quoi qu'il se passe pour la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens ne peuvent pas perdre leur nationalité française. C'était important pour nous.
Satisfait également le député Nicolas Metzorf qui souligne que le comité de rédaction va désormais continuer le travail sur la loi fondamentale et sur la loi organique.
On a terminé la rédaction du projet de loi constitutionnelle. Après, ça reste qu'un projet, hein, puisque ça doit être adopté évidemment par le Sénat, l'Assemblée nationale, et ça doit passer par les fourches codines du Conseil d'État. Mais en tout cas, au niveau des partenaires de Bougival, la rédaction du projet de loi constitutionnelle est close. Comme on est dans l'esprit de Bougival, il y a des questions d'interprétation forcément, mais le tout s'est déroulé dans une très bonne ambiance constructive. On peut dire aux Calédoniens qu'aujourd'hui, il y a des partis constructifs autour de la table qui veulent travailler et qui veulent que ça avance.
Donc ça, c'est la première étape. Après, il y aura la loi organique spéciale et la loi fondamentale. Là aussi, le comité de rédaction sera associé sur ces deux sujets-là.
Oui, bien sûr. C'est un comité de rédaction qui a vocation à vivre, hein, puisqu'on a énormément de textes à rédiger. On a la Constitution qui était à la limite la plus facile, parce que dans la Constitution, c'est là où on en met le moins, puisque c'est la Constitution, on met les grands principes. Mais derrière, la loi organique spéciale et la loi fondamentale vont être beaucoup plus conséquentes, donc ça va prendre énormément de temps. Donc ce comité de rédaction a vocation à vivre.
Des propos recueillis par Nicolas Legrand. Et dans un communiqué, les loyalistes et le Rassemblement soulignent qu'une première étape a été franchie dans la mise en place de l'accord de Bougival. Ils indiquent que le projet proposé par l'État respecte les équilibres négociés avec l'ensemble des délégations à Bougival et que les partenaires politiques calédoniens ont travaillé dans un esprit serein et constructif à l'élaboration du projet de loi constitutionnelle. Pour eux, cette première pierre au futur édifice institutionnel calédonien est essentielle, car la Nouvelle-Calédonie restant au sein de la République française, la Constitution demeure la norme suprême qui organise les grands principes qui régissent le fonctionnement du territoire. Il rappelle notamment que ce texte confirme l'établissement d'un statut pérenne, mettant fin à l'incertitude institutionnelle qui pèse depuis trop longtemps sur l'avenir du territoire et qui entérine également la réouverture du corps électoral.
Et on notera également que le CESE est désormais associé au comité de rédaction. Il était représenté ce matin par sa première vice-présidente, Rosanna Roy, et par son quatrième vice-président, Patrick Olivot. Le Sénat coutumier, en revanche, était absent ce matin après avoir participé aux deux premières réunions du comité de rédaction. Dans un communiqué, son président indique que cette absence n'exprime pas un retrait du processus de dialogue. Il écrit que cela marque la volonté du Sénat coutumier de rappeler sa mission propre, qui est de contribuer à la construction d'un avenir commun fondé sur la reconnaissance de l'identité kanak. Le président du Sénat coutumier, Maïgoé, a été reçu à la mi-journée par le ministre des Outre-mer.
Nous lui avons surtout dit que notre présence dans les deux premières réunions, c'était à la fois pour apporter notre vision. Et là, nous nous sommes rendus compte que l'accord Bougival était déjà quelque chose de dans le circuit, quoi. Donc, de notre point de vue, nos propositions ne pouvaient pas intervenir à ce niveau-là, quoi, compte tenu de l'engagement du projet à un plus haut niveau. Ensuite, nous avons dit que nous ne sommes pas fermés à la discussion. Dans un deuxième temps, nous nous situons aussi un peu dans l'idée de l'appui Bougival, quoi. Quels que soient les résultats, nous sommes positionnés pour continuer à discuter. Et nous avons créé depuis le 12 juillet, après le sommet de Paris, une espèce de plateforme dans laquelle nous avons réuni l'ensemble des partis politiques des deux bords pour pouvoir partager nos visions. C'est pour ça qu'on dit que nous n'avons pas fermé la porte. Au contraire, nous nous inscrivons pour faciliter les discussions à la fois entre les partis politiques et en même temps dans la société civile.
Le Sénat coutumier qui rappelle que la reconnaissance pleine et entière du peuple autochtone kanak et de son droit à l'autodétermination constitue un élément essentiel du dialogue politique. On en vient à ce démenti de l'Union calédonienne. Le parti est décidément dans la tourmente et il a été victime d'un faux courrier qui a circulé ce matin sur les réseaux sociaux, Elisabeth.
Il s'agit d'une fausse note interne qui annonçait que l'UC allait changer de nom pour s'appeler Union Kanak au lieu d'Union calédonienne. Un changement de nom justifié, selon cette note, par le contexte de Bougival qui a introduit la notion artificielle de peuple calédonien. Il s'agissait bien sûr d'une fake news publiée sous la signature du secrétaire général de l'UC, Dominique Fauchy, et celui-ci n'a pas apprécié la plaisanterie. Il a publié un démenti en dénonçant un courrier portant sa signature avec de faux éléments pour manipuler l'opinion publique sur les valeurs de l'Union calédonienne. Il précise qu'aucune réunion n'est prévue pour changer de nom ni de valeur. Et il affirme que la devise de l'UC, deux couleurs, un seul peuple, reste l'un des piliers de sa philosophie politique. L'Union calédonienne qui se réserve le droit de porter cette affaire devant la justice et qui appelle au discernement et à la raison durant cette séquence politique charnière.
On en revient à cette visite de Manuel Valls. Plus tôt dans la journée, le ministre avait accueilli les enfants lors de la rentrée scolaire. Il s'est rendu dans l'école primaire Edmond Desbrosses à Caméré, un quartier particulièrement touché par les émeutes. Aujourd'hui, l'équipe enseignante s'inquiète de la montée de la précarité chez les familles. Le questionnaire distribué par la province sud l'an dernier révélait qu'un tiers des élèves disait sentir ne pas assez manger dans sa journée, et ce, malgré les bourses et les aides à la cantine. Aujourd'hui, l'État souhaite apporter son soutien aux collectivités, selon Manuel Valls.
Au fond, ce que nous faisons tous d'ailleurs pour la Nouvelle-Calédonie, c'est pour la jeunesse, c'est pour l'avenir. Et donc l'école, comme la formation, doivent être des priorités. Nous avons une réflexion avec la présidente de la province sud, comme avec les maires de la Nouvelle-Calédonie, c'est de voir comment on peut aider davantage les communes sur deux questions qui me paraissent très importantes, la problématique du transport et la problématique de au moins un repas équilibré par jour à travers les cantines, sachant que les familles sont aidées aussi par les systèmes de bourse. Bon, donc sur ce sujet-là, nous y travaillons avec Claire Durieux, la responsable interministérielle du programme de reconstruction, qui était là il y a quelques jours. Donc j'espère que nous aurons l'occasion très vite de faire un certain nombre d'annonces qui viennent soutenir les communes sur ces deux sujets. Il faut le faire évidemment le plus intelligemment possible. Mais je sais que ça pèse, la question des impayés pèse évidemment notamment sur les finances des communes.
Manuel Valls qui souhaite que des politiques en faveur de la jeunesse doivent être déployées dans l'accord de Bougival.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Et on démarre forcément avec la question du jour. Manuel Valls va-t-il arriver, selon vous, à convaincre le nouveau FLNKS de reprendre la discussion autour de cet accord de Bougival? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Notez avant de faire une pause dans ce journal ce rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu. Lors de son séjour, Manuel Valls a annoncé l'envoi de renforts de personnel médical, des renforts qui viendront pour des missions de 3 mois et qui interviendront de façon tournante, en priorité dans les zones en pénurie. Une initiative à laquelle l'Ordre de Malte a travaillé. Pour nous en parler, nous recevrons demain matin à 7h30 le délégué territorial de l'Ordre de Malte France, Yann Carpentier. À 17h59, bientôt 18h, vous êtes sur Radio Rythme Bleu. On marque une première pause avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Ce sont les soldes chez Jardiland. Du 30 août au 28 septembre, transformez des petits prix en grand plaisir. Alors profitez-en pour aménager et décorer votre extérieur ou encore prendre soin de vos animaux. Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Info soir, Léo Fichou.
Le dispositif de soutien à l'emploi du gouvernement se précise. La loi du pays a été adoptée le mois dernier au Congrès. Aujourd'hui, ces élus ont adopté une délibération définissant ses modalités de mise en œuvre. Charlotte Coulson.
Plus de 4000 salariés seraient soutenus avec cette loi du pays. Elle présente deux dispositifs phares, une allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi qui, je le rappelle, est équivalente à 100% du SMG, dans la limite de 125 heures par mois. Le second dispositif porte la création d'un fonds emploi. Il vise à soutenir le retour à l'emploi en instaurant une réduction dégressive des cotisations patronales pour toute embauche d'un demandeur d'emploi pour une durée supérieure à 6 mois. Aujourd'hui, le projet de délibération adopté visait à définir les modalités de mise en œuvre de ces deux dispositifs, comme explique Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment du travail et de l'emploi.
Pour les démarches, il va y avoir différents critères. Il y a pour les entreprises qui bénéficiaient déjà du chômage partiel, on a une automaticité sur les critères. Il n'y aura pas forcément de démarche particulière. On a déjà, depuis le vote de la loi de pays, nos directions qui ont contacté les différentes entreprises pour qu'elles rentrent dans le dispositif. Et pour les entreprises qui sont en situation compliquée économique, elles vont devoir contacter la direction du travail et de l'emploi, donc via le formulaire, pour bénéficier du maintien dans l'emploi. Et sur la partie retour à l'emploi, un dispositif particulier est mis en place également sur notre site.
Le fonds emploi servira donc à rembourser les cotisations patronales versées par les employeurs à la CAFAT. Ce projet de délibération a été adopté à l'unanimité par les groupes représentés au Congrès, qui ont tous rappelé sa nécessité pour soutenir l'économie calédonienne, au moins jusque la fin de l'année.
Et puis autre sujet à l'ordre du jour, l'examen d'une proposition de loi du pays relative à la solidarité et à la lutte contre le gaspillage. Le texte présente une obligation pour les grosses entreprises de proposer leurs denrées alimentaires invendues aux associations concernées. Charlotte.
Plus de 4000 tonnes de biodéchets étaient recensées en 2021, selon une enquête de l'ADEME, soit plus de 10 millions de repas perdus en une année. Un gaspillage qui se fait à chaque étape de la chaîne alimentaire, production, importation, distribution, mais aussi chez les consommateurs finaux. Aujourd'hui, les associations caritatives, la Banque alimentaire, Saint-Vincent-de-Paul, Macadam et bien d'autres recensent une demande d'aide de la population qui aurait augmenté de 30% ces derniers mois. Dans ce contexte de précarité alimentaire accrue, le groupe Calédonie Ensemble au Congrès a donc présenté cette proposition de loi du pays. Elle vient offrir un cadre juridique actuellement inexistant pour le don alimentaire. Elle propose notamment pour les importateurs, producteurs et distributeurs alimentaires dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de francs hors taxes de proposer obligatoirement le don de leurs invendus alimentaires aux associations. Cela concernerait 43 sociétés. La proposition de loi du pays fixe également l'amende en cas de manquement à un peu plus de 447 000 francs. Le texte propose également la création d'une plateforme numérique qui permet la centralisation des offres de dons. Cette loi du pays a été adoptée à l'unanimité, à l'instant au Congrès. En direct du boulevard Vauban, Charlotte Coulson, RRB.
Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces précisions. Le CESE publie aujourd'hui son rapport d'activité 2024. Malgré une année marquée par les émeutes, le Conseil économique, social et environnemental a rendu 24 avis, 2 vœux et 2 contributions. Le CESE a également contribué à la réflexion sur le plan de refondation et de reconstruction du gouvernement. On retiendra encore de cette année 2024 que le Conseil économique a créé une 11e commission dédiée à l'évaluation des politiques publiques. Notez ce nouveau rendez-vous d'antenne. On a beaucoup parlé de Sudpro, la plateforme mise en place par la province Sud qui permet d'aider les patentés et les très petites entreprises. La province a également lancé au même moment Sudjeune, un dispositif qui favorise l'accès des moins de 30 ans au marché du travail. Il a déjà permis l'embauche de 36 jeunes, dont 34 en CDI. Comment fonctionne ce dispositif? Quel est le bilan? Rendez-vous demain midi dans le magazine Citoyen. Pour en parler, nous recevrons Charlène Gauthier, directrice adjointe de la Direction du développement économique et touristique à la province Sud, Catherine Desrumeaux, gérante du laboratoire du Catalan, Jade Van Hal, gérante de Tiati, et plusieurs jeunes qui bénéficient du dispositif Sudjeune.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Conné, c'est le 98.
Direction le Nord pour parler santé, puisque le CHN annonce la réouverture du service de chirurgie de Conné. Ce sera dès le 1er septembre. 10 lits seront opérationnels. Autre nouveauté, la reprise des sorties SMUR en journée uniquement. Les détails de Marc Ouété, nouveau directeur du centre hospitalier du Nord.
Ce qu'on va pouvoir faire avec les recrutements paramédicaux que nous avons pu réaliser sur ces deux derniers mois, c'est essentiellement la réouverture du service de chirurgie, mais à mi-capacitaire, à demi-capacitaire, c'est-à-dire 10 lits uniquement. Autrement, tout le reste reste à l'identique. L'objectif étant de bien sûr réouvrir les lits d'hospitalisation déjà sur Conné, mais aussi la perspective de remettre un peu plus d'offres de soins au niveau du combat qui est de point limier. Il s'agira d'ouvrir les soins externes, voire les urgences dans un deuxième temps, mais il faut avant tout qu'on arrive à stabiliser le personnel, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant.
Et pas de changement du côté de Coumac et de Pointe-d'Imier. Seules les consultations médicales sont pour le moment assurées. De son côté, le personnel médical du Medipol était en grève ce lundi. Un mouvement général qui fait suite à l'appel du STKE aide-soignant. Le syndicat tire en effet la sonnette d'alarme face à la surcharge de travail et au manque d'effectifs. Une rencontre avec le gouvernement est prévue le 10 septembre prochain. Malgré la grève, les patients sont pris en charge. Aujourd'hui, le service est maintenu. Au chapitre des faits divers à présent, après la disparition d'un pêcheur à pied samedi soir à Coumac, le COSENSE et la gendarmerie ont malheureusement arrêté leur recherche.
Ils avaient pourtant déployé un important dispositif hier dans la zone de Babouya, un hélicoptère Puma Defunk, 4 moyens nautiques, une patrouille terrestre de gendarmerie. Mais l'homme est toujours porté disparu, sa scène de pêche et ses lunettes ont tout de même été retrouvées. Noyade, attaque de requin, disparition, aucune piste n'est exclue. Une enquête pour disparition est désormais ouverte par la gendarmerie de Coumac. Le gouvernement exprime par voie de communiqué son soutien à la famille et aux proches de la personne disparue, avant de rajouter que ce drame rappelle le danger auquel s'expose toute personne lors d'une sortie en mer. Le gouvernement rappelle également les gestes simples à adopter, consulter les bulletins météo, vérifier son matériel et les équipements de sécurité, informer un proche, se munir d'une VHF et contacter le 16 en cas de difficulté.
Cette information pratique, le Betticho fera demain une rotation spéciale loyauté Sud-Île en concertation avec Air Calédonie. Et ce, à la suite des incidents techniques de ces derniers jours, annonce la mise en place d'une rotation Nouméa-Maré-Lifou-Nouméa. Le départ est prévu à 7h demain matin pour un retour à 19h30. Les passagers Calédonie sont priés de se rapprocher de la compagnie aérienne afin de confirmer leur place pour la rotation à bord du Betticho s'il est encore temps. Pour les autres, les billets sont disponibles directement en ligne. Un repas gastronomique pour la bonne cause. Hier soir, les disciples d'Escoffi organisaient le dîner d'Épicure au Rouf, un repas concocté par le chef Frédéric Jonot, le meilleur ouvrier de France, champion de France de dessert et champion d'Europe de sculpture sur fruits et légumes, était accompagné en cuisine d'une quinzaine de chefs de Nouméa. En salle, ce sont les stagiaires du RSMA et les élèves des lycées hôteliers qui ont assuré le service. Retour sur cette belle soirée avec Olivier Hart, coprésident des disciples d'Escoffi en Nouvelle-Calédonie.
Ça partait de la mise bouche en passant par le crabe, le maï-maï, le filet de bœuf, le fromage et le dessert. Et c'était juste fabuleux en fait. Il nous a fait des plats de haute voltige qu'on n'a vraiment pas l'habitude de découvrir en Nouvelle-Calédonie, avec des techniques de mof, donc des sauces d'une pureté et d'une profondeur extraordinaire, des dressages, des présentations somptueuses, pleines de volume, de couleurs, de brillants. Les clients étaient absolument enchantés et ravis de ce qu'ils ont trouvé. C'était même au-delà de leurs attentes. C'était vraiment fabuleux. Les bénéfices seraient récoltés étaient reversés à l'association LACAPA pour s'occuper des personnes âgées, de nos petits vieux qui sont dans le besoin. Donc, on va reverser une partie des bénéfices à LACAPA et une deuxième partie va revenir pour les jeunes talents escoffiers qui nous permettra de financer et le concours et le voyage à l'étranger pour les deux lauréats qui auraient gagné le concours en Nouvelle-Calédonie.
Un repas excellent et une soirée bien animée par JB, le duo Pachai et enfin Phil, l'enchanteur. 18h passées de 9 minutes, seconde pause dans ce journal avant de voir l'actualité dans la région. On parlera aussi sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léo Fichou.
On va parler de l'actualité dans la région. L'Australie se porte candidate pour accueillir la COP31, la conférence des Nations Unies sur le climat qui aura lieu en 2026. Canberra a déjà reçu le soutien des pays et territoires du Pacifique. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Réunis à Suva, les chefs de la diplomatie des pays membres du forum ont estimé qu'ils avaient ainsi l'occasion de faire de ce sommet annuel une véritable COP du Pacifique. Ils ont aussi réaffirmé dans une déclaration commune que le changement climatique, je cite, demeure la plus grande menace pour les moyens de subsistance, la sécurité et le bien-être des populations du Pacifique, et ont ajouté que, je les cite toujours, le changement climatique demeure un obstacle majeur à la réalisation de la stratégie 2050 pour le continent Pacifique bleu. La COP31 constituera une occasion historique d'accélérer l'action internationale en faveur du climat et de faire entendre la voix des nations les plus vulnérables, ont-ils conclu. À Sydney, Jean-Pierre Saint-Jacques, RRB.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Kumak, c'est le 99.
On passe au sport. Nos représentants ont brillé en athlétisme lors des dernières compétitions nationales et internationales. Plusieurs semaines où les Calédoniens étaient engagés chez les jeunes, mais aussi en élite. Nous avons parlé ce midi dans le MAC des sports de ces jeunes justement qui réussissent et qui décrochent des médailles. Nous recevions notamment Loane Ville qui a conservé sa couronne sur le 400 mètres haies. Elle était dans nos studios.
Globalement bien, parce que mine de rien, j'ai pu remporter mon titre de championne de France, donc ça fait toujours du bien au moral et c'est important en championnat de gagner. Je vais pas pour participer et ouais, ça a été quand même un déplacement de 7 semaines pour ma part, donc ce n'est pas rien. Ça fait toujours du bien de rentrer à la maison et puis en plus on rentre pas les mains vides, donc contente.
Également dans nos studios, Félicé Vaïs Osaya qui a décroché le titre de champion de France élite en lancer de javelot après avoir été blessé en 2024.
Par rapport au championnat de France cette année, ouais, ça s'est très bien passé parce que j'ai réalisé mon meilleur de la saison le jour J, le jour où il le fallait. Et sinon, par rapport aux années précédentes, ouais, c'était un peu compliqué, et surtout les deux dernières années, puisque j'étais souvent blessé depuis... Le meeting de Melbourne, c'est compliqué au niveau des blessures. Cette année, tout va mieux et ça s'est concrétisé avec les bonnes performances, surtout le titre de champion de France avec la performance de 80 mètres.
Et tous les athlètes étaient encadrés par le conseiller technique Eric Royard qui a apprécié les belles prestations de l'ensemble des Calédoniens.
C'était un long déplacement émaillé de nombreuses compétitions en métropole et à l'étranger. Il y avait un gros groupe cette année. Aurore Manoufekai notamment, qui est également championne de France du poids. Vous avez eu Leslie Finitoulaga dans vos studios, qui a été double championne de France espoir au poids et au disque. Et on a eu également d'autres athlètes qui se sont distingués cette année. Certains s'entraînent en métropole, comme Nils Popé, qui a ramené le titre au lancer de marteau en open. Et puis une jeune génération qui est en train de monter par l'intermédiaire de Maël Taïeb sur le sprint, Vadim Strougar sur les épreuves combinées sur les haies, ou encore Florian Girard sur le 110 mètres haies. Et donc ce sont des jeunes qui ont réussi pour certains à battre des records, y compris des records de Calédonie, et à se rapprocher des podiums, la plupart d'entre eux ayant fini finaliste aux portes du podium. C'est un niveau d'exigence qu'on s'est fixé, ce qui fait que forcément c'est dur. Plus on met la barre haut et plus c'est difficile de l'atteindre. Donc une très grande satisfaction au niveau national. Au total, je crois qu'il y a 6 titres de champion de France cette année. 7 podiums au total, donc c'est un carton plein et c'est une belle prestation d'ensemble.
Un MAC des sports à retrouver dans son intégralité sur notre site internet, je le rappelle, www.rrb.nc. 18h14, après le sport, place à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Pierre.
Vigilance jaune, coup d'ouest à partir de mardi matin. Un vent d'ouest à nord-ouest soufflera dès mardi matin sur la côte ouest, au sud de Pointe-Boute, l'île des Pins et la pointe nord. Il atteindra 20 à 25 nœuds, 45 km/h, avec des rafales pouvant monter jusqu'à 35 à 40 nœuds, 75 km/h. Cette nuit, sur l'ouest, des nuages porteurs de petites averses continueront de circuler. Ailleurs, le ciel restera dégagé et bien étoilé. Le vent d'ouest se renforcera en fin de nuit, soufflant entre 15 et 20 nœuds sur l'ouest. Et la pointe nord et 10 à 15 nœuds ailleurs. Les températures redeviendront fraîches, malheureusement, descendant localement autour de 15 degrés dans l'intérieur et même entre 11 et 14 degrés au Loyauté. Sur le littoral, elles varieront entre 16 et 19 degrés. Demain matin, après un début de matinée bien ensoleillé sur l'ouest, de nouvelles averses arriveront en fin de matinée pour gâcher la fête sous un ciel qui se chargera progressivement. Ailleurs, le beau temps persistera, le vent d'ouest se renforcera encore et deviendra soutenu. maintenu, atteignant fréquemment 20 nœuds sur l'ouest et la pointe nord. Il restera plus modéré ailleurs, autour de 15 nœuds.